Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, la malbouffe, voilà un terme qui a fait son apparition en 1980 et qui depuis ne nous quitte plus. Symbolisé par l'alimentation que proposent les fast-foods, alimentation trop grasse, trop sucrée ou pauvre en nutriments, la définition de la malbouffe s'est désormais tendue à une critique plus globale, dénonçant aussi le modèle productiviste et la société de consommation. En 1976 déjà, en France, Claude Zidi et son film « L'aile ou la cuisse » réalisaient une satire de l'industrie alimentaire. Plus récemment, en 2004, l'Américain Morgan Spurlock réalise le documentaire « Super Size Me » où pendant un mois, il se nourrit exclusivement d'hamburgers, de frites et de sodas. Résultat, 8 kilos en plus en un mois seulement et de sérieux problèmes de cholestérol. En France, heureusement, nous ne sommes pas encore au stade où un Américain sur trois est obèse, donc pas en surpoids. Et les pays scandinaves et anglo-saxons prennent cette voie, suivie de près par la France. Et parmi les personnes touchées par les conséquences de la malbouffe, on trouve les ménages défavorisés, car les produits au fort apport nutritionnel, non périssables, sont bien moins chers que les fruits et les légumes. Pour parler avec nous de ce que l'on pourrait appeler une sociologie de la malbouffe, Guy Payotin vient de nous rejoindre en studio. Guy Payotin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez accepté notre invitation et nous vous remercions. Vous êtes le secrétaire perpétuel de l'Académie d'agriculture, ancien président de l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA en d'autres termes. Alors avec vous Guy Payotin, nous allons pouvoir parler de l'agriculture industrialisée, de ses effets positifs et négatifs sur l'alimentation en règle générale, également des inégalités dans le choix alimentaire, une sociologie de la malbouffe qui est donc le titre de notre émission, et puis également donc les conséquences médicales, problèmes de santé, publique. Et enfin, nous évoquerons les décisions engagées par l'État en matière d'éducation sur le plan de la nutrition, ainsi que des mouvements en opposition à la malbouffe, en l'occurrence la slow food. Mais tout d'abord, avant d'en venir aux produits finis, revenons quelques instants sur la tertiarisation de l'agriculture qui fait partie intégrante de la définition de la malbouffe. Alors, qu'est-ce qu'on appelle tertiarisation de l'agriculture, Guy Payotin ?
Bon, c'est un mot un peu compliqué qui doit vouloir traduire par une formule tiroir une évolution considérable de la production agricole pendant les 60 dernières années. Je dis 60 parce que c'est à peu près mon âge, donc c'est quelque chose que j'ai fini, que j'ai vécu. Avant-guerre, juste après-guerre, du fait de la guerre, nous n'étions pas en capacité de nous nourrir nous-mêmes. Donc il y a eu beaucoup de mesures prises pour produire assez pour l'alimentation des familles. Et donc des réformes ont été entreprises, les réformes de 60, ensuite les accords européens. Et tout ceci s'est traduit par une production sans cesse plus performante qui a couvert nos besoins, au-delà d'ailleurs peut-être de toute limite. Tout de suite, s'agissant de l'alimentation, il faut voir que ce processus était fondé sur un cercle économique vertueux, accepté par les agriculteurs, savoir moins d'agriculteurs, ce qui les obligeait à être encore plus performants, migration des populations agricoles vers les villes au bénéfice de l'industrialisation. Et il faut noter que toutes les politiques de soutien à l'agriculture ont été, dans les pays étrangers, ont été fondées sur le souci d'apporter une alimentation à coût modéré aux classes populaires. C'est explicitement écrit dans les choix des États-Unis qui ont précédé ceux de l'Europe. Et ça a été très vécu de cette façon-là dans des pays comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, qui ont connu des grosses difficultés alimentaires il n'y a pas si longtemps. Peut-être moins en France, mais tout a été fondé là-dessus. Donc ça a été effectivement réussi.
Donc à la base, quelque chose de positif ?
Oui, oui, bien sûr. La première chose, puisque vous parliez des pauvres, le point positif de l'industrialisation, peut-on dire, de l'agriculture, c'est la baisse des prix à la consommation. Parce que la consommation est quelque chose de nécessaire, et donc c'est, on le disait jadis, un impôt sur les pauvres. Et donc la diminution de la part consacrée, des budgets consacrés à l'alimentation, est plutôt une bonne chose. Bien. Tout ceci s'est accompagné d'une urbanisation de la population. Ça, on l'a pas tout à fait perçu, c'est-à-dire les campagnes se sont vidées, c'était près de 50% de la population il y a 60 ans, et encore à une forte minorité, enfin quasiment la moitié d'agriculteurs. Aujourd'hui, les agriculteurs, c'est 2 ou 3% de la population. Ils sont minoritaires dans les campagnes et les gens sont dans les villes. Du fait que les gens soient dans les villes, l'industrialisation de l'alimentation s'est opérée. Les gens n'ont plus de contact avec la production directe. On leur amène des produits auprès de chez eux. Ces produits sont souvent transformés, ne serait-ce que pour la conservation. L'industrie a fait des efforts d'imagination pour fournir des produits de plus en plus complexes, au point que les habitants des villes ont presque inventé une nouvelle façon de manger. Mais quand on parle de malbouffe, c'est la malbouffe par rapport à une bouffe, ben c'est l'expression que vous l'utilisez vous-même, qui s'est considérablement artificialisée. Et peut-être est-ce là une part des problèmes.
Pour faciliter aussi la vie aux consommateurs, la vie des
consommateurs. Pour la faciliter, mais en même temps, ça l'a éloigné d'une culture alimentaire. C'est-à-dire probablement, si on remettait brutalement un habitant de nos villes dans les conditions rurales ou même dans les conditions de ville que j'ai connues, il ne saurait plus que faire. Moi, j'allais chercher en région parisienne mon lait à la ferme, on le faisait bouillir, et il y avait une chance sur deux de tourner, une autre chance sur deux de déborder malgré une anti-montelaire. Enfin, c'était pas exactement la même vie. Maintenant, vous allez dans un rayon d'hypermarché, les produits laitiers sont déclinés de 36 façons avec 36 arômes, 36 formules amincissantes ou je ne sais quoi. Donc, on n'a plus du tout le même aspect de l'alimentation, et je pense que les gens sont un peu perdu face à tout ça. Mais ça, c'est plutôt gênant. Bon, alors après, l'agriculture, parce qu'elle était soutenue par les prix, a produit au-delà de ce qui était nécessaire. Il faut le reconnaître, et que les réformes de la politique agricole commune s'imposaient de manière à ce qu'il n'y ait pas une surproduction, si on veut.
Les fameux quotas.
On a commencé par les quotas laitiers, c'est exact. Et puis après, on a séparé les aides et les prix. Et puis maintenant, on en est au découplage complet des aides et des prix. Avec l'idée qu'on arriverait à mieux réguler la production agricole par les prix que de soutenir les agriculteurs à produire ce qui pourrait être en excédent. Alors tout ça est très discuté, on ne va pas en parler beaucoup aujourd'hui, mais si on indique par l'expression agriculture productiviste, une agriculture qui produirait des produits qui servent à rien et subventionnés, je suis d'accord pour le critiquer. Si on parle d'agriculture productive, compétitive, je ne vois pas de raison de le critiquer. Les gens préfèrent payer moins que plus. Certains le regrettent, mais c'est ainsi pour beaucoup de facteurs. Et augmenter artificiellement les prix agricoles conduirait, je me répète, à une sorte d'impôt sur les plus pauvres. Alors, l'idée de la malbouffe, elle est vieille. Je me souviens une fois, un grand chef cuisinier, je ne sais plus qui, plus la mémoire de celui qui avait dit ça dans un colloque, mais il y a déjà longtemps, il citait un auteur carthaginois qui se plaignait du fait qu'on ne mangeait plus comme avant, que c'était épouvantable. Tout le monde se souvient de la chanson de Jean Ferrat, ils rentraient dans leur HLM, mangeaient leur poulet aux hormones, etc. etc.
Donc c'est bien antérieur aux années 80.
Oui, bien sûr. Par contre, il ne suffit pas d'avoir des idées de ce type. Il faut pouvoir mesurer un changement réel chez le consommateur. Et ce changement réel, il a été mesuré, mais plus tardivement. Il a été mesuré, disons, au début des années 90. Un an avant la première réforme de la politique agricole commune, où on a effectivement vu des consommateurs qui ne suivaient pas ce qu'on appelle un comportement strictement économique, c'est-à-dire qui achetaient un certain nombre de produits plus chers que des produits ordinaires. Parce qu'avant, on ne le voyait pas, ça. Vous pouvez toujours rêver, dire que vous mangez mal, mais oui. Si finalement, au moment où vous faites vos courses, vous achetez au plus bas prix, vous avez une opinion, puis vous avez un comportement, ce qui est, en matière alimentaire est assez fréquent. Par contre, à partir de 90-91, on a vu un décrochage assez significatif. 30% des gens acceptaient de payer plus au nom d'une qualité subjective, mais d'une qualité quand même. Et ça tombait bien, puisque ça permettait, en principe, de différencier la production agricole pour pouvoir pallier les inconvénients de la réforme de la politique agricole commune. Alors pourquoi est-ce que c'est arrivé? Ça n'a jamais été étudié en détail. Dans un ouvrage un peu populaire, j'avais soupçonné, comme d'autres, que c'était le résultat, vous allez me dire ça va chercher loin, de la chute du mur de Berlin et des crises qui sont arrivées après, à savoir qu'on est passé brutalement d'un monde bipolaire à cette mondialisation multipolaire et que les citoyens ont été un peu perdus dans cette affaire.
On a besoin d'un retour aux sources.
Aux sources de repères, parce que ça n'a pas touché, l'expression n'est pas convenable, n'a pas influencé que l'alimentation, mais les gens n'ont plus été dans les stations de ski énormes, etc. Il a fallu quasiment les détruire, créer des villages. Et il y a eu beaucoup d'éléments qui indiquent que les citoyens, donc le consommateur, avaient envie de se resituer. Et donc, quelque part, de retrouver un lien avec une nature qu'ils avaient quittée 30 ans auparavant, collectivement. Alors ça, c'est l'aspect sociologique assez simple. Et s'y est greffé les crises que nous connaissons tous de la vache folle, après de la dioxine, un certain nombre de choses comme ça, sur lesquelles s'est greffé, même si c'est autre chose.
Donc ça, c'est le milieu des années 90.
Alors, c'est le milieu des années 90, problème des OGM, et qui a fait basculer ce sentiment vers la santé. De façon un peu confuse, mais quand même.
L'alimentation, médicaments.
D'abord l'alimentation qui pourrait dire des choses qui pourraient vous empoisonner. L'alimentation médicaments, oui, on a vu naître cela un peu avant d'ailleurs. Et là, je crois qu'on est dans une période que je trouve un peu troublante aussi. Je pense pas que le retour à un certain nombre de valeurs, de repères, etc., ne soit fait que d'éléments positifs. Il y a aussi des éléments qui sont une espèce de solitude, de concentration sur l'individu. Il faut y ajouter le problème des nombreux couples qui sont déglingués, de la solitude des gens. Ici à Paris, il y a beaucoup de gens, je crois, qui vivent seuls. Et donc, le bien par excellence personnel, c'est la santé. Et donc, vous vous concentrez sur cette espèce d'individualisme qui est la santé. Et alors aujourd'hui, il suffit d'ouvrir sa radio. Ce que je fais, j'écoute beaucoup les radios dites grand public pour voir à peu près, je sais pas, comme ça par goût. Je pense que tous les 20 minutes, vous avez une annonce touchant à la santé.
Une publicité, vous voulez dire
ou... Une publicité, un conseil, n'importe quoi. Qui rythme le quotidien. Maintenant, vous ne pouvez pas avoir une publicité sur l'agroalimentaire tant qu'elle n'en ajoute pas, éviter de grignoter.
Donc vous voulez dire qu'en fait, même si on n'y pense pas, on nous suggère d'y penser, voilà. D'y réfléchir.
Donc vous avez une somme de prescriptions. Alors là, c'est ça qui me préoccupe un peu. C'est-à-dire que face à cette espèce de solitude, d'obsession parfois de l'homme sain, se greffe dessus une somme de prescriptions, comme si la société pourrait se tirer de tout par une bonne prescription médicale qu'on suivrait, point final. Et je crois qu'il y a aussi l'idée qu'après tout, le mieux est de rendre les gens responsables de leur maladie et leur mort, parce que l'inconvénient, bien sûr, c'est de mourir. Donc il faut que les gens soient à peu près convaincus que s'ils meurent, c'est de leur faute, et que s'ils mangeaient bien, s'ils fumaient pas, je pense qu'on ajoutera beaucoup de choses, eh bien, à ce moment-là, ils pourraient accéder à l'éternité. Alors, tout ceci est un peu vain, parce que personne ne le suit. C'est l'un des problèmes, c'est que ces prescriptions ne sont pas suivies, parce qu'on ne mange pas sur prescription.
Oui, parce que entre les indications que l'on peut nous suggérer fortement, par le biais de la radio ou par d'autres médias, malheureusement, il y a un paradoxe avec cette obésité ou ces maladies cardiovasculaires qui sont de plus en plus nombreuses en France et dans d'autres pays.
Oui, il y a un paradoxe. Déjà, l'un des points essentiels, c'est qu'on peut indiquer que certainement des excès alimentaires peuvent conduire à des risques de santé évidents. Si vous buvez trop, vous avez des problèmes. Si vous mangez trop par rapport à l'exercice physique, vous aurez des problèmes, etc. etc. Donc, on ne peut pas nier qu'il faille prendre garde à son alimentation. Pour autant, je ne pense pas que la mise en garde fait que les gens se mettent à manger mieux. On n'est pas constamment en train de se dire est-ce que je fais le pas dans la bonne direction, surtout quand on mange. Ensuite, quand on mange de façon complètement désordonnée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'heure de repas, vous mettez à grignoter. Vous tombez dans un comportement extrêmement individuel qui va vous conduire à des comportements alimentaires qui sont pathologiques et qui sont pas bons. Donc il faut s'adresser plus aux causes qu'à la conséquence. C'est comme si vous disiez, je vais m'arranger pour que le thermomètre n'indique plus la température. Le cassé, c'est excessif, les gens ne sont pas sots. Le thermomètre cassé, il le remplace. Mais que le thermomètre soit biaisé, donc il n'y aura plus de fièvre. Donc, il faut plus aller aux sources. Et ces sources sont souvent sociologiques.
Vous voulez dire, c'est le temps que l'on passe à chaque repas? C'est le nombre de repas que l'on prend?
Oui. Si... Je vais vous dire une chose. Il se trouve, vous m'avez présenté dans mes fonctions et dans ce que j'ai fait, mais il se trouve peut-être pour cette émission, ce que je trouve le plus important, c'est que je fais mes courses assez souvent. Je fais le marché et je fais la cuisine. Et nous avons avec mon épouse une maison en province, du côté de Saintes, et nous recevons beaucoup de gens, y compris mes trois filles, et je fais la cuisine et on mange bien. Mes trois filles maigrissent pendant qu'elles sont là-bas. Et pourquoi? Parce que vous allez me dire, on mange les bonnes choses, certes, mais déjà on mange avec plaisir. Le fait d'aller faire son marché, de ramener des produits, d'en discuter avec les enfants, de faire le repas. Alors, il ne s'agit plus de bouffe, il s'agit de repas, de le préparer plus ou moins ensemble, de dresser une table, tout ça fait que vous le faites avec plaisir. Et puisque vous parliez des pauvres, je vais vous parler aussi des banlieues, c'est-à-dire dans l'urbanisation. Suite à l'industrie, enfin, que j'ai évoquée tout à l'heure, on parle d'urbanisation, mais en fait, cette urbanisation a beaucoup touché la construction de banlieues. Et autant vous avez dans le monde rural où vous avez encore des structures, des repères, je ne parle même pas de valeurs, mais les saisons, que sais-je, des rythmes de temps, autant vous l'avez dans des villes, parce qu'il y a de l'histoire ici, non? Dans ce studio, on voit la Seine, on voit les monuments. Il y a toute une histoire dans les rues qui rythme notre existence. Dans les banlieues, il n'y en a pas. Il y a eu des architectes, l'architecte de la Grande Borne, j'avais m'étais intéressé à cela un certain temps, il estimait, presque à juste titre, qu'il était impossible de créer des lieux d'histoire dans une cité nouvelle. Et il avait même pris le parti de faire en sorte qu'il n'y en ait aucun. Il avait laissé un seul arbre. Bah, le résultat est probant dans l'expérience, c'est que vous avez un monde qui n'a pas de repères simples d'histoire et autres. Et donc, il n'a pas non plus de repères sur son alimentation. Et ce sont des endroits où, depuis longtemps, malheureusement, on ne mange pas à un rythme équilibré. J'habite aussi la banlieue. Je me souviens d'une époque déjà lointaine où les enfants, beaucoup d'enfants le midi, ne déjeunent pas. Parce que les parents ne sont pas là, ils ont une clé autour du cou. Et puis, ils s'alimentent pas le midi.
Ils préfèrent aller voir ailleurs, oui. Voilà.
Alors, qu'il ait un petit bidule à grignoter plein de sucre, bah oui, ça ne m'étonne pas. Donc il faut déjà rétablir un certain nombre d'équilibres. Vous prenez les légumes. Je vais acheter des légumes, bien sûr, qui sont effectivement coûteux. Mais encore faut-il les acheter, les cuisiner et qu'ils soient mangés. Et par exemple...
Au-delà de l'aspect économique, vous voulez dire qu'il y a une éducation au goût?
Une éducation au goût et à la cuisine. Vous savez, manger des légumes, ça se fait pas spontanément. Si vous les cuisinez pas du tout, la plupart des enfants, vous leur servez des légumes, ils les mangent pas.
Manger une courgette crue, effectivement, ça peut peut-être poser problème.
Mais même une courgette cuite. Donc il faut qu'il y ait une acculturation, c'est-à-dire que les gens s'approprient une culture alimentaire. Et j'en parle parce qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a des gens qui se préoccupent de ça. Et le poisson, il faut le cuisiner. Et là, c'est aussi très coûteux. Donc, vous ne pouvez pas simplement dire manger du poisson ou manger des légumes. Puis on va, même si vous alliez peut-être le donner, qui ne serait pas mangé.
Alors, je vous propose de marquer une courte pause, Guy Paillotin, et on se retrouve tout de suite après pour aborder peut-être plus en détail ces notions économiques et également cette notion de culture alimentaire. À tout de suite.
Les avancées dans la recherche médicale et les espoirs thérapeutiques de demain, Canal Academy vous propose une douzaine d'émissions sur ce thème. Quand l'imagerie médicale permet de lutter contre le cancer, quand la technique satellitaire peut servir à guérir en Afrique, quand la chirurgie appose une greffe sur un visage, mais aussi quand les médecins et les philosophes s'interrogent sur le clonage thérapeutique et la bioéthique. Soyez à la pointe des dernières découvertes et avancées médicales grâce au travail de diffusion du savoir par l'Académie des sciences.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Guy Payotin, secrétaire perpétuel de l'Académie d'agriculture et ancien président de l'INRA. Avec vous Guy Payotin, nous parlons de la sociologie de la malbouffe. Dans cette deuxième partie de notre émission, nous allons pouvoir parler peut-être d'une notion un peu plus économique de la sociologie de la malbouffe. Alors pour cela, je me base sur les travaux de France Cavaillet, qui est venu il y a de cela quelques temps à l'Académie d'agriculture pour faire une communication à ce sujet. Et notamment sur l'argent, le budget que consacrent des ménages, favorisés ou pas, à l'alimentation. Alors je vais faire que relire en fait tout simplement ce qu'elle a écrit. Les ménages défavorisés consacrent une part de leur budget plus forte à l'alimentation, 22% pour les ménages en dessous du seuil de pauvreté contre 18% en moyenne, soit environ 4 euros par personne et par jour contre 6,30 euros pour la population totale. Et pour un coût minimum pour respecter l'ensemble des apports nutritionnels qui sont conseillés pour la population, alors on estime ce coût à 3,20 euros par personne pour pouvoir se nourrir convenablement par personne et par jour. Et pour une personne qui est en précarité, elle ne peut y consacrer que 2,50 euros. Alors la question, c'est de savoir si finalement, pour bien se nourrir, eh bien, il faut avoir un minimum d'échelle sociale, Guy Payotin.
Vous savez, le gros problème des pauvres, je vais vous dire une chose, c'est qu'ils sont pauvres. Oui, c'est une chose qu'il faut toujours rappeler. Et donc, il est plus difficile pour un pauvre d'avoir accès à la nourriture en général, à la voiture, au transport, etc. Et tout ceci doit nous faire réfléchir. Le problème que vous évoquez, c'est que si l'on dit qu'il faut consommer 5 ou 6 légumes par jour et du poisson je ne sais plus combien de fois, et comme ces produits ne sont pas les moins onéreux, on a le sentiment, à juste titre, que les pauvres vont avoir moins d'accès, un accès plus difficile à la santé, ce qui est bien sûr préoccupant. Alors, il me semble que ces indications nutritionnelles, je l'avais dit aux nutritionnistes qui les avaient énoncées, qu'elles posaient d'entrée de jeu un problème. Et d'ailleurs pas nécessairement que pour les gens pauvres, parce que vous avez aussi des foyers qui ne sont pas prêts à consacrer énormément de budget à leur alimentation. Donc il faudrait que cette enquête que vous avez citée aille voir encore un peu plus loin, parce que parfois, sur les budgets, on va restreindre. C'est souvent les femmes qui s'occupent de l'alimentation et c'est les hommes qui dépensent le plus. Ça aussi, c'est une enquête qui a été faite. Donc, ça veut dire que les hommes vont provoquer une certaine érosion du budget alimentaire. Je crois qu'il aurait été quand même préférable d'aborder la nutrition autrement, à savoir, prenons une catégorie sociale et quels sont les éléments nutritionnels qui lui permettront, avec le budget qu'elle a, d'aborder convenablement l'alimentation plutôt que de sortir des préceptes qui sont inapplicables et qui ne sont pas appliqués. Parce que quand on regarde ce qui se passe, les gens, même je crois les gens qui ont de l'argent, n'achètent pas, ne consomment pas les 5 ou 6 légumes dont on parlait. Et je ne suis pas certain qu'ils consomment le poisson dont on parlait.
Mais on ne peut pas nier que les produits les plus caloriques, gras et sucrés, sont quand même beaucoup moins chers, beaucoup plus accessibles.
Les produits les plus caloriques sont effectivement les moins chers. Et en plus, ils donnent le sentiment de s'être nourri convenablement. Alors, je vais vous dire une chose. Effectivement, il faudrait pouvoir... Je ne pense pas qu'il y ait une fatalité à ce que les ménages en difficulté achètent que des produits caloriques. Il y a un autre problème, c'est que si vous voulez acheter des produits non caloriques, etc., en général, il faut faire son marché, ce que je fais. Et comme j'avais écrit un livre avec une journaliste qui m'avait constamment posé la question de l'accès des pauvres à la qualité de l'alimentation, en disant que j'étais peut-être un peu élitiste, quand je fais mon marché, pas à chaque fois, non, quand même, mais je regarde si je pourrais faire un menu acceptable.
Acceptable, c'est-à-dire sur le plan nutritionnel ou sur le plan financier ?
Sur le plan du prix.
D'accord.
Et vous en trouvez. Je ne dis pas que ce soit facile, mais vous en trouvez. Mais donc, ça demande Je reviens sur la culture, ça demande de regarder les prix, d'être axé là-dessus, d'imaginer qu'avec ça, vous ferez un menu qui fasse plaisir et qui ne soit pas condamné par votre famille, et d'y passer donc un peu de temps.
C'est ce que j'allais dire, ça prend du temps d'aller faire le marché, de choisir ses produits,
c'est un plaisir. Il n'est pas évident que d'aller faire ses courses dans une grande surface, d'y aller en voiture, de passer à la caisse, de charger les choses, de vider les emballages, prennent tellement moins de temps. Mais vous en avez le sentiment. Et finalement, beaucoup de gens pensent qu'en prenant leur voiture, en faisant les courses au même endroit, sans regarder et pouvoir comparer les prix, parce que vous êtes un seul endroit, ça va vous faire gagner du temps, vous ferez des économies, et vous achetez même parfois, dans des milieux relativement défavorisés, des plats tout préparés pour gagner du temps ou pour paraître avoir le niveau, un niveau social requis. Donc on a un problème complexe. Je ne vais pas dire que la question du prix n'existe pas, mais on a un problème beaucoup plus complexe que ça. Je veux dire que si par hasard, demain, on diminuait, on ne peut pas diminuer à l'infini le prix des fruits et légumes, je ne suis pas certain que ça s'accompagnerait par une augmentation de la consommation des fruits et légumes, tant la difficulté d'accéder à l'utilisation de ces produits, pour beaucoup de raisons, est difficile. Donc, la première tâche à faire, c'est de permettre une appropriation de ce type d'alimentation. Et je crois qu'il vaut mieux prendre les choses comme ça. Par ailleurs, il ne faut pas non plus angoisser les gens à l'excès. Moi, je disais à un nutritionniste que compte tenu de la quantité de poissons qu'il fallait consommer, d'huile, de matière, de lipides d'un certain type qu'il fallait consommer très tôt avant l'âge de 5 ans, j'étais probablement, compte tenu que je suis né en 1940 et qu'il y avait quelques restrictions, je devais être à moitié débile. Donc, aujourd'hui, vous avez la moitié d'un débile devant vous. Donc, il y a quand même à garder la mesure. Je pense qu'on doit pouvoir trouver des diètes intéressantes, équilibrées et qui ne nécessitent pas nécessairement un énorme budget. D'autre part, le fait de manger trop est d'autant plus gênant que vous ne bougez pas.
En fait, oui, voilà, il faut bien sûr associer une activité physique.
Bien entendu. Donc, nous sommes dans une situation où l'alimentation est bien trop riche par rapport à l'activité physique que nous faisons. Alors, est-ce que vous pensez également que dans les banlieues, tout le monde a accès à faire du jogging, du sport, du tennis, qui sont encadrés pour faire ça ? Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de plaisir à vivre pour faire des repas groupés, etc., etc. Donc, je crois qu'il faut quand même essayer de traiter le problème un peu globalement si on veut avancer. Et probablement, au départ, par un certain nombre d'éléments pédagogiques. Et là, je trouve que ce qui tentait d'être fait en matière de pédagogie, et bien sûr plus que nécessaire. Encore faut-il, après, qu'on puisse retomber dans une vie où ce soit possible.
Alors, quelques chiffres sur nos habitudes alimentaires. Alors, en 1960, on estime qu'un Français mangeait en moyenne 1 kg de crème glacée. En 1995, ce même Français est passé à 14 kg de consommation de crème glacée. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est devenu plus gourmand ? Ou parce que c'est devenu une habitude de vie, une facilité peut-être d'aller se nourrir de crème glacée. Également un autre chiffre, alors là pour passer du sucré au salé, on estime que 15 à 20% des Français consomment 12 grammes de sel par jour. Certainement de par les produits déjà pré-cuisinés que l'on trouve en libre-service, en hypermarché. Qu'est-ce que cela
vous... À mon avis, c'est un rare domaine où la prescription peut être efficace, parce que, autant sur un certain nombre de choses, de vouloir par prescription faire en sorte que les gens mangent une grande quantité de légumes et de poissons, ça va être difficile. Autant là, je ne vois pas d'autre solution, parce qu'il y a une certaine addiction au sucré et au salé. Et il faut s'en sortir, et là...
Mais le salé, est-ce que ce n'est pas justement, concernant l'addiction au salé, est-ce que ce n'est pas forcément justement plutôt les industries qui nous donnent cette addiction, puisqu'ils... C'est eux qui font les adjonctions de sel.
La tendance industrielle a été de créer des formes d'addiction. C'est incontestable, il faudrait être naïf. Mais ils n'avaient pas, on dirait, faute peut-être de culture sur les questions de nutrition, absolument l'intention de nuire. Quand même pas exagéré.
Oui.
Donc, à partir du moment où on a commencé à leur indiquer qu'il y avait une forme d'addiction et que celle-là était gênante, pour la santé, je crois qu'ils ont accepté de diminuer la quantité de sel qu'ils peuvent mettre dans leurs produits.
Avec...
Et pour les gens qui nous écoutent, il se trouve qu'un jour, pour je ne sais quelle raison, mon épouse a dit, tiens, que vous devez avoir un petit peu de, je ne sais plus de quoi, enfin, qu'elle mangerait avec moins de sel. Du jour au lendemain, on n'a plus mis de sel dans nos aliments. Un, vous vous y habituez très bien. Deux, ça vous oblige à cuisiner avec un peu plus d'art et de finesse pour qu'il y ait un goût indépendamment du sel.
Une saveur autre avec des épices. Autre,
donc, sauf pour les pâtes, les nouilles, où c'est quand même assez difficile de consommer sans sel. Vous pouvez justement consommer des légumes sans sel. Si vous faites des poireaux, il n'y a pas besoin d'y ajouter de sel. Si vous mettez de l'oignon quelque part, il n'y a pas besoin d'ajouter de sel. Donc je crois que là, si on m'écoute, il n'est vraiment pas difficile de consommer moins de sel. Et je crois que c'est une bonne chose. Et que là, franchement...
La législation européenne, justement, qu'est-ce qu'elle dit dans ce cadre-là ? Sur le plan, justement...
Alors, il y a une addiction au sucre, de la même façon. Et je vous dis une chose, c'est évidemment déconseillé de...
C'est rien, et vous ne...
Trop de sucre aux enfants, surtout s'ils ne bougent pas. On a fait des expériences
où l'alimentation, manifestement,
les enfants eux-mêmes jouent à un jeu agroalimentaire
sur un écran.
Il faut consommer moins de sucre.
Il y a des jeux où il faut quand même bouger un peu les doigts. Il y a des jeux où pratiquement on ne bouge pas les doigts. Et bien, celui qui simplement bouge les doigts, il grossit moins que celui qui ne les bouge pas.
Donc, la dépense énergétique doit être proportionnée à ce qu'on consomme, ou plutôt l'inverse.
La concentration aussi joue sur...
La concentration aussi. Alors tout le monde s'y laisse prendre. C'est vrai que vous prenez une crème glacée, vous avez envie d'y revenir le lendemain. Il faut faire très, très attention à ce genre de choses qui sont absolument pas nécessaires pour la santé. Et puisqu'il s'agit d'un plaisir, les meilleurs plaisirs, mais ça demande toute une éducation, les meilleurs plaisirs ne sont pas les plaisirs liés à l'addiction et à une addiction. Et donc, il faut introduire du plaisir dans l'alimentation. Mais il faut pouvoir dire aux gens que s'ils ne mangent pas salé, ils peuvent y retrouver un plaisir plus grand, parce que vous pouvez commencer à avoir une saveur de tel et tel élément, tel et tel légume, justement, qui ne sera pas cassé par le sel ou le sucre.
Alors, avant d'en venir à l'éducation... d'éducation à l'alimentation, on pourrait quand même évoquer les conséquences en fait d'une trop forte consommation de sucre, de sel. Alors bien sûr, une première chose, c'est l'obésité.
Oui, c'est l'obésité.
On estime que les personnes qui sont plus alors défavorisées, vous dites pauvres, c'est toujours difficile de dire pauvres. Alors j'ai toujours tendance à dire défavorisées.
Mais non, je préfère dire les choses telles qu'elles sont, parce que on a une espèce de
pudeur
et de regarder... Non, je disais ça à cause des pays en voie de développement aussi, parce que là, on dit pauvre. Et l'obésité touche aussi les pays en voie de développement. Et donc, c'est un problème qui n'est pas qu'un problème franco-français ou américain.
Donc, un pauvre, puisque vous le dites, a trois fois plus de risques d'être obèse qu'une personne qui, malgré tout ce que vous nous avez dit hein, sur l'éducation, même l'alimentation, a trois fois plus de risques d'être obèse qu'une personne qui aurait des revenus, on va dire, un peu plus élevés.
Oui, c'est vrai, mais...
Avec tous les autres problèmes de santé qui suivent, donc bien sûr, c'est les problèmes cardiovasculaires,
c'est certainement lié à... Vous savez, vous avez un enchaînement quasiment fatal, c'est-à-dire que quand vous n'éprouvez pas de plaisir sur un certain nombre de choses, sur des repas organisés, c'est bien sûr là que l'addiction va prendre tout son poids.
Et quand vous dites repas organisés, vous parlez de repas de famille, de repas en groupe ?
De repas sinon de famille, du moins... du repas au moins deux, et si possible trois. Vous avez beaucoup de gens qui mangent tout seuls.
Parce que beaucoup de personnes.
Qui mangent pas.
Parce que je pense aux personnes âgées qui mangent seules et qui, pour le coup, mangent de moins en moins.
Vous avez le même problème pour les. Enfin, c'est un problème juste inverse pour les personnes âgées qui, en plus, ne mangent pas assez de protéines et qui voient donc leur. Parce qu'elles n'ont plus le goût des protéines. Et donc, vous avez des recherches dans l'agroalimentaire qui consistent à augmenter le goût de protéines pour que les personnes âgées consomment des protéines. Bon.
Donc c'était pour dire, si vous voulez, que une certaine partie des populations qui mangent seules le soir ou le midi, justement, ne mangent très peu. En l'occurrence, les personnes âgées.
Soit elles mangent peu, mais les jeunes dont vous parliez, en fait, ils vont manger peu. Mais ils vont manger des sucreries, des
peu mais mal.
Peu et mal, et constamment. Et si vous ajoutez d'autres éléments de comportement alimentaire et autres, vous allez vers des catastrophes, bien sûr.
Et en englobant donc personnes âgées et jeunes Français, on estime qu'il y a un Français sur 5 qui a un taux de cholestérol supérieur à 2,5 g.
Oui, je ne suis pas complètement convaincu. Non, mais que le taux soit ça, je ne suis pas complètement convaincu que tout soit dû à l'alimentation et que vous puissiez si aisément que ça, dans certains cas, faire diminuer votre cholestérol par l'alimentation. Bon, il y a des cas oui, mais il y a des cas non. Donc, il faudrait pouvoir distinguer un peu les choses. C'est effectivement un problème que j'ai rencontré. Il n'est pas très difficile de retirer de son alimentation des excès de graisse inopportune et d'arriver à un équilibre de cholestérol qui soit convenable. Et quand vous regardez ce que vous retirez, bon, c'est pas franchement ce qu'il y a de plus excitant dans une recette. Mais là encore, je sais parce que j'ai eu cette expérience. Donc vous allez, et je reviens sur ce que demandait mon épouse, elle avait un peu de cholestérol, elle voulait qu'on élimine ceci et cela.
Toutes les graisses.
Des graisses, les lardons dans la cuisine, parce qu'elle prétextait que c'était...
C'était vos lardons responsables de son taux de cholestérol.
Non, elle prétextait que c'était ma cuisine, que j'y mettais trop de beurre, je lui ai fait remarquer que je ne faisais pratiquement pas la cuisine au beurre, que c'était le beurre qu'elle consommait en excès chaque matin. Parce que les gens ne se rendent pas compte aussi des excès qu'ils commettent, c'est toujours... Et donc, je me suis mis à faire le marché en me disant, bon, évitons ceci et cela. Ça vous force, effectivement, à imaginer d'autres formes de recettes. C'est un petit travail d'imagination. Et je ne suis pas certain que ce travail d'imagination soit, attirant pour ceux pour qui faire la cuisine est une corvée. Parce que vous ajoutez une corvée à une corvée. Par contre, si vous commencez à prendre ça comme un jeu, bien sûr, vous pouvez résoudre le problème. Mais pour prendre comme un jeu, il faut que dès le départ, vous ayez trouvé dans la confection de votre alimentation une partie jeu. Je vais sans doute vous surprendre, mais quand j'étais président de l'INRA, j'avais d'excellentes relations, je pourrais toujours en avoir, avec M. Koff. Parce que je trouve qu'il présentait l'alimentation de façon très plaisante, comme un jeu, et qu'il rendait les plus grands services à la société en évitant les prescriptions. Et c'était souvent suivi des faits, vous savez, on voyait bien les gens aller acheter telle et telle chose. Je me souviens une fois, il parlait de la rhubarbe, mais au marché de la rhubarbe, j'ai vu les gens acheter de la rhubarbe. Vous demanderiez aujourd'hui à quelqu'un d'acheter de la rhubarbe, il dirait, mais comment ça se fait, comment, bon.
C'était pas très cher. Je vous propose de marquer une seconde courte pause, Guy Payotin. On se retrouve ensuite pour la troisième partie de notre émission, dans laquelle donc, nous pourrons parler de l'éducation à l'alimentation plus en détail, et puis également de ce qui pourrait se faire dans les années à venir pour essayer de retrouver une alimentation plus saine. A tout de suite.
Canal Académie vous propose de revenir sur les grandes étapes de l'évolution des espèces. 4 milliards d'années, ainsi compilées en 45 minutes, le temps de l'émission, avec Claude Combe, membre de l'Académie des sciences. De la première cellule Luca aux organismes pluricellulaires, des parasites aux éléphants, Claude Combe nous entraîne dans le vaste tourbillon de la vie à partir de son livre de vulgarisation scientifique « Darwin, dessine-moi les hommes ». Téléchargez dès maintenant cette émission, elle est en libre écoute sur Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Guy Payotin, secrétaire perpétuel de l'Académie d'agriculture et ancien président de l'INRA, avec qui nous discutons de la malbouffe, une sociologie de la malbouffe. Dans cette dernière partie, Guy Payotin, nous allons parler des solutions que l'on pourrait apporter pour essayer d'avoir une alimentation plus saine, une conduite peut-être plus saine aussi. Et cela passe par une éducation à l'alimentation. En tout cas, c'est un terme que vous avez employé déjà plusieurs fois au cours de cette émission. Donc, je vous propose peut-être d'en parler un peu plus en détail. Est-ce que cela doit passer par les élèves à l'école primaire pour avoir une éducation, une alimentation plus saine?
Il y a une nécessité de découvrir, je dirais, le plaisir dans l'alimentation, et les plaisirs vrais, les plus sophistiqués, demandent une découverte, alors qu'on peut appeler éducation, mais je dirais une découverte. C'est vrai pour l'art, c'est vrai pour beaucoup de choses. Alors moi, j'ai en tête des expériences que j'ai eu l'occasion de rencontrer, parce que quand j'ai écrit mon bouquin, que j'avais titré « Tais-toi et mange ».
Tout à fait.
J'ai été invité à prononcer des conférences dans beaucoup d'endroits, y compris dans la banlieue parisienne, celle des gens démunis, et j'ai découvert des expériences très intéressantes. Je voudrais pas faire d'erreur, donc je citerai pas la commune, mais c'est une commune du nord de Paris, où des associations avaient entrepris de faire de la cuisine avec des mères de famille, immigrées, souvent maghrébines ou d'Afrique noire, mais qui ne savaient pas finalement acheter les produits. Ils avaient découvert qu'ils ne savaient pas utiliser un kilo de farine, qui est quand même beaucoup moins cher qu'un plat tout cuisiné. Et ils ont fait en sorte de leur apprendre à cuisiner, et déjà les plats de leur pays, de manière à ce qu'il y ait une appropriation des denrées qu'ils pouvaient trouver dans leur supermarché pour faire des plats, qui soient déjà aussi un retour à leur propre culture, et progressivement de leur faire découvrir des plats qui puissent correspondre plus à la culture de notre pays. Et ça marchait très, très bien. Et je suis sûr que ça avait des conséquences nutritionnelles et de santé tout à fait bonnes. Ils ne se contentaient bien sûr pas de faire ça, parce qu'il y avait également des associations qui se faisaient faire du foot à des gosses qui étaient dans les cités, les organisaient d'autres sports. Et puis, il y avait les mêmes associations qui aussi faisaient faire de la musique, etc. Et c'était pas en parallèle, parce que le jour où j'ai fait ma conférence, je suis arrivé au moment où un petit orchestre terminait son petit entraînement, et je suis arrivé à la fin de espèce de cours, entre guillemets, de cuisine, et on m'a fait manger avec ces jeunes ce qui avait été préparé au cours de ce cours. C'était un couscous tout à fait excellent. Et après, j'ai fait ma conférence avec d'autres personnes, y compris d'ailleurs des infirmières qui suivaient tout ça. Donc une politique globale et qui, à mon sens, est de nature à payer. Bon, j'ai pas été voir les résultats, mais les gens qui faisaient ce type d'activité étaient convaincus, je crois, preuve à l'appui d'un progrès considérable, y compris en matière de sécurité. Parce que vous savez, c'est toujours pareil, la sécurité des banlieues, c'est la sécurité de ceux qui sont loin. Et s'ils pouvaient d'ailleurs ne faire des dégâts que là où ils sont, ça serait parfait. Donc, la prescription, c'est toujours pour ceux qui sont ailleurs. Donc là, un véritable travail. Je me souviens d'une autre intervention dans une commune plus à l'ouest, mais également populaire, où la municipalité avait une cuisine centrale et essayait en liaison avec des artisans de la commune de préparer des plats pour les personnes âgées, pour les écoles et pour un peu tout, dans un esprit qui soit à la fois d'équilibre nutritionnel et d'agrément, de plaisir. Avec des difficultés, les difficultés des marchés publics. Avec les difficultés, c'est qu'en même temps qu'on veut préserver la santé par la nutrition, on veut la préserver contre tout risque de santé, et qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter du bio dans la campagne environnante d'une petite ville, vous pouvez pas parce que...
Oui, il y a tous les contrôles sanitaires.
Donc, vous savez, une fois de plus, j'arrive à cet aspect global, c'est que la France est à la fois le pays qui prétend que le goût est au-dessus de tout dans les négociations internationales, mais le pays, à la limite, le plus exigeant sur la sécurité sanitaire qui va à l'encontre. Donc, il faudra bien qu'un jour, on essaye de voir quel est le bilan santé de tout cela. La difficulté, c'est que la responsabilité n'est pas la même. Il se trouve qu'en France, la responsabilité du maire ou du décideur est engagée s'il y a un accident de santé. Par contre, tout est fait pour que l'accident d'obésité soit la responsabilité de celui qui mange. Donc vous avez un problème d'optique qui conduit à des dysfonctionnements dans l'approche globale du problème de santé. Je me souviens d'une entreprise de restauration, je ne citerai pas, je ne suis pas là pour faire de la publicité, qui, en liaison avec des communes, s'arrangeait pour faire découvrir dans les toutes petites classes la diversité des fruits et des légumes, justement, en poussant les enfants à faire à goûter des pommes, à aller les voir, et petit à petit à s'approprier la diversité.
Il existe déjà des initiatives de ce type, la semaine du goût, par exemple.
La semaine du goût, mais vous savez, il faut aussi de la continuité, parce que la semaine, ça suffit pas. Donc, il faut des expériences qui soient suivies, et je crois qu'il y en a beaucoup dans beaucoup de communes. Et puisque vous me demandez que faire, j'aurais tendance à dire qu'il faut généraliser ce genre de choses. Il y a eu des politiques alimentaires en Grande-Bretagne quand les gens crevaient de faim, Parfois, elle a même été jusqu'à exporter des enfants en Australie, ce qui fait scandale récemment parce qu'on a découvert ça. Mais on peut avoir une politique alimentaire de qualité, c'est-à-dire on essaye de voir comment on va former surtout ceux qui n'ont pas accès à ce type d'information, à une alimentation diversifiée. Parce que vous savez, le premier conseil que donne, de bon sens que donne les nutritionnistes, c'est de manger varié.
Alors, le fameux conseil manger 5 fruits et légumes par jour, est-ce que ça fait partie des préceptes à suivre pour ne pas être obèse?
Moi, je pense qu'il vaut mieux conseiller, parce que je peux toujours vous dire ça dans le micro, je sais que ça ne sera pas suivi des faits. Donc, ça ne sert à rien. Vous savez, d'origine, je suis physicien. Donc, j'ai déjà entendu une fois quelqu'un dans un colloque qui disait « Tiens, il y a telle prescription qui n'est pas très compliquée pour les femmes, pour qu'elles évitent l'ostéoporose à partir d'un certain âge, et elles ne l'appliquent pas. » Conclusion, ce sont des idiotes. Moi, ma conclusion en tant que physicien, c'était de dire que si le traitement n'est pas accepté, c'est qu'il ne marche pas. Il faut regarder les faits. Donc, il vaudrait mieux déjà pousser à manger différencié et varié. En tout cas, pas la même chose. Et ça vous met le pied à l'étrier d'un processus alimentaire dans lequel vous allez découvrir le jeu, tout ce que j'indiquais. Et ça, à mon avis, c'est un préalable avant d'arriver à la différenciation des légumes. Il faut certainement indiquer de ne pas consommer trop salé, et si possible, à la limite, dans certains cas, sans sel, et bannir la consommation de sucre excessive et surtout le grignotage de produits très sucrés entre les repas. Déjà, si vous avez fait ce genre de choses, vous aurez marqué, vous aurez fait un pas. Après, si les gens veulent accéder aux poissons, etc., vous avez des poissons qui ne sont pas très chers. Vous avez là, certaines époques, il y a des sardines qui ne sont pas très chères, le maquereau, etc.
Qui donnent du bon cholestérol.
Tout ce qu'il faut, mais bon, il faut. Est-ce que vous croyez que d'entrée de jeu, si on dit aux gens, donc, allez donc manger un peu plus souvent des sardines, et ils ne savent pas la cuisiner, en plus, si vous devez la cuisiner chez vous, bonjour, hein, parce que il vaut mieux être dehors et assez loin.
La sardine, oui, effectivement.
Oui, le maquereau, vous savez, c'est pas. Donc, il y a toute une, il faut regarder, il faut faire preuve de bon sens. Moi, je crois que il y a moyen de manger varié. Équilibré, et ça serait déjà un pas important dans la nutrition.
France Cavaillet, dans ses conclusions, en fait, hein, suite donc à ces travaux qu'elle a menés sur le prix qu'accordait chaque famille pour une alimentation par jour, par personne, elle préconisait dans sa conclusion de baisser, pourquoi pas, la TVA sur le prix des légumes et des fruits pour que ce soit plus accessible à tous. Est-ce que vous pensez que ça serait suivi ?
Il me semble avoir dit déjà des choses comme ça sur un ton un peu humoristique. J'ai même fait pire. J'ai indiqué une fois à des producteurs de fruits et légumes que le mieux serait d'importer beaucoup de fruits et légumes à bas prix de l'étranger pour pouvoir résoudre des questions. Moi, ça ne les a pas fait rire extrêmement. Enfin, j'ai toujours un humour un peu... Bon, si on veut regarder ça, ça paraît séduisant. Il y a deux choses. C'est que là, on touche à un financement public. Il faudrait donc se poser la question... Si cette subvention, en quelque sorte, de fait, à la consommation de fruits et légumes...
aurait un impact sur la santé.
Va se traduire par le meilleur impact sur la santé, ou si la même somme doit être consacrée à d'autres éléments de santé. Je crois que c'est un raisonnement qu'il faut toujours avoir en économie. Et c'est toujours très tentant de dire on va améliorer ça, sans se demander si c'est la priorité, et si le rendement de l'opération va être le meilleur pour la santé. Alors vous allez me dire qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de corrélation entre les mesures qu'on prend et les effets sur la santé. Mais quand même, de temps en temps, je pense qu'un pays qui se veut rationnel et qui l'est guère dans ses choix de dépenses publiques, on pourrait mettre en face de tel effort budgétaire ou de défaut de taxes, quel est l'impact réel sur la santé. Et si on me dit ou si on disait, si on pouvait vraiment déterminer que c'est un impact important, je serais le premier à dire qu'il faut diminuer drastiquement les prix des fruits et légumes. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la priorité des priorités. Et peut-être faut-il regarder aussi les maladies nosocomiales qui ne sont pas tout à fait juste en elle-même.
Et renforcer, par exemple, la qualité nutritionnelle des produits premiers prix, par exemple, ce serait quelque chose que l'on pourrait apporter par des législations encore
quelque chose. La législation, je crois, je l'avais indiqué, qu'on peut avoir des démarches de qualité fédérant les industriels et la grande distribution. Je vais vous dire, je crois que la grande distribution y est prête, dit-elle, mais c'est pas elle qui fabrique. Si, quoi qu'elle fabrique beaucoup. Donc, ça serait d'avoir des démarches volontaires affichées et suivies. Enfin, je pense que ces démarches-là sont toujours meilleures que, surtout en matière d'alimentation, que des démarches trop législatives. On sait que je suis à contre-courant de la plupart des gens qui m'écoutent, mais on est franchement le pays roi de la décision autoritaire sur tout ce qui nous concerne dans la vie courante. Et ça aura des conséquences négatives sur le plan social. C'est-à-dire que, vous savez, plus on va contrôler, plus on va interdire, etc., et plus vous aurez une montée de violences diverses et variées. Bon. Je suis prêt à prendre rendez-vous, moi. Enfin, donc il faut aussi laisser un peu de part à la liberté, à l'engagement des gens. Il faut pousser, il faut que les pouvoirs publics poussent. Je crois qu'ils le font d'ailleurs, les industriels, au-delà de mettre un petit slogan « cessez de grignoter », à faire un effort. Et puis je crois qu'il faudrait aussi une charte d'éthique, parce qu'il y a éviter les addictions excessives. Je n'irai pas plus loin, mais je pense qu'il y a des produits alimentaires dans lesquels il y a vraiment des éléments addictifs que, pour ma part...
Par exemple
je ne veux pas faire de...
Pour qu'on puisse avoir une idée.
Mais malheureusement, on est toujours obligé de citer des marques ou autres, et je ne peux pas le faire, mais voilà, il faudrait veiller à ce genre de choses, parce que il faut pas simplement vérifier comme on le fait de façon très 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 sévère, stricte, qu'il n'y a pas de risque de listeria ici et là. Oui. Il faut aussi vérifier qu'on va pas vendre des produits qui font que des jeunes s'y habituent excessivement et ont des problèmes de santé quand même.
Mais sans citer de marque, juste citer une gamme de produits.
Écoutez, tous mes auditeurs ont compris de quoi je veux parler.
Alors, pour terminer cette émission, puisque bien sûr elle se termine, au tout début de l'émission, j'ai parlé de slow food. Est-ce que ce phénomène de slow food qui a donc débuté en 89 et qui a pris pas mal d'ampleur est une manière de s'opposer justement, pour le coup, fast food et à cette notion de malbouffe?
Mais si c'est pour un certain nombre de personnes un moyen d'arriver
comme un mouvement qui s'est vraiment opposé,
je suis pas contre. Pour moi, qui suis d'une génération un peu plus ancienne, je l'ai déjà écrit, considérer que maintenant les luttes sociales, voire la révolution se fait autour d'une table, ça m'amuse énormément. Bon. Et je me dis quelle heureuse époque quand même. J'ai connu une époque où les combats étaient plus rudes. Mais bon, je n'ai rien nécessairement contre tout ce que peut dire Josy Bové d'un côté, le slow food de l'autre. Mon idée, c'est quand même que la table, c'est pas tout à fait l'endroit de la révolution, ni du combat, et que la voie que je propose, c'est qu'on y trouve un plaisir intelligent. Si le plaisir intelligent, c'est de manger slow, mangeons slow. Mais moi, je conseille, une fois de plus, de maîtriser son alimentation de façon, par son intelligence et son goût, plutôt que de suivre un courant qu'on ne suit pas si longtemps, que de suivre strictement un régime qu'on ne suit pas bien longtemps et qui de toute façon n'a pas d'effet parce qu'on l'a suivi de façon... On s'est mis en situation de dépendance. Il faut, par rapport à l'alimentation, renverser. Ce qu'on peut dire, malheureusement, des personnes défavorisées, pour prendre vos termes, c'est qu'elles sont souvent dans un état de dépendance malgré elles. Donc, il faudrait que ceux qui peuvent, qui en ont les moyens, se mettent à ne pas être dépendants, même de gourous, même de tendances. Mais quand je dis ça, je vois que vous souriez, la presse féminine est remplie de tous ces conseils fort avisés.
Juste pour vraiment terminer, mais après, je vous rassure, l'émission sera terminée. Alors, pour terminer cette émission, Guy Paillotin, vous avez fait référence à Josy Bové. Josy Bové, on l'assimile à la lutte anti-OGM. Alors, est-ce que les OGM font partie de ce que l'on appelle la malbouffe?
Écoutez, là, je ne peux pas répondre en 5 minutes, c'est toute une autre affaire. Oui. Puis c'est quelque chose sur lequel je m'exprime très rarement parce que le débat est complètement confus. Ce qu'on peut dire, beaucoup de gens disent, Je conteste un peu, c'est connu, pour un scientifique, ça me met dans une situation difficile, je conteste l'utilisation des OGM pour un certain nombre de choses, notamment peut-être pour des effets sur l'environnement. Alors on me répond, en général, que j'ai bien tort parce que je mangerai, paraît-il, constamment des OGM. Et je réponds qu'à ma connaissance, on peut venir chez moi, je ne consomme pas actuellement d'OGM. J'aurais pas, absolument pas peur qu'il me tue, c'est pas parce que... Mais c'est un bon exemple. C'est pas parce que j'aurais peur qu'il nuise à ma santé. Il se trouve que je ne consomme pas ces produits tout faits, prêt à être mangé, et dès l'instant où vous faites votre cuisine en allant, quand j'achète des poireaux, il n'y a pas d'OGM dedans, les tomates non plus, je les cuisine avec des produits tout à fait ordinaires qui n'en contiennent pas. Il se trouve que je ne sais pas s'ils participent à la mauvaise bouffe, mais que je constate qu'une bouffe à peu près normale se passe des OGM en France, puisque nous n'en cultivons pas. Alors, il y en a dans le soja. Mais le soja, quand même, le tourteau de soja, à part un certain nombre de produits, que je ne citerai pas non plus, c'est quand même pour donner à consommer à des cochons. Bon, pour l'instant, c'est pas une alimentation qui soit de ce type-là.
Eh bien, Guy Pelletin, je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien donc, au sein de Canal Academy. Je rappelle le titre de votre ouvrage que vous avez cité au cours de cette émission, qui s'appelle « Tais-toi et mange, l'agriculteur, le scientifique et le consommateur », un livre que vous avez écrit avec Dominique Rousset et qui a été publié aux éditions Bayard en 1999. Et j'invite nos auditeurs à regarder sur le site de Canal Academy toutes les émissions que nous proposons. Et j'espère, Guy Pelletin, que nous allons pouvoir bientôt se retrouver pour une autre émission, pourquoi pas sur les OGM, peut-être pour en parler plus longuement. Merci de votre visite et puis à très bientôt.